Gilles Rebêche, vous êtes diacre, responsable de la diaconie du Var. Vous êtes aussi délégué épiscopal à la solidarité et à la pastorale du deuil du diocèse de Fréjus-Toulon. Vous avez été aussi membre du Conseil national pour la solidarité. Vous représentez l'Église catholique de France au Comité national d'éthique du funéraire. Et il y a une question dans votre parcours, Gilles Rebêche, qui est une question déclencheuse. Qui es-tu pour m'empêcher de mourir?
Oui, disons que cette phrase a été une remise en cause intérieure, enfin, comme on dit maintenant, en faisant référence à Mère Teresa, c'est un appel dans l'appel. J'avais fait ce choix de vie de m'engager comme volontaire au sein du mouvement athée des Quarts Mondes, après des études de théologie où je me destinais à être prêtre, et quand j'ai vu le parcours qu'on me proposait, en particulier de venir ici au séminaire français à Rome. J'avais 20 ans et j'ai eu le sentiment qu'on me propose un parcours de carrière. Et j'ai eu le sentiment que de continuer au séminaire risquait de m'éloigner de ce que je comprenais de l'Évangile et de Jésus. Donc je me suis engagé auprès du père Joseph Wrzinski, qui à l'époque avait monté le mouvement athée des Quarts Mondes dans les banlieues parisiennes. Il m'a renvoyé sur Toulon. Et finalement, j'étais assez fier de mon choix et je pense que c'était une voie tracée. J'avais réalisé que beaucoup d'anciens séminaristes s'étaient mariés au sein du mouvement ATD, étaient des volontaires auprès des plus pauvres et j'étais sûr d'avoir trouvé ma voie. Donc le père Joseph Wrzinski m'a renvoyé à Toulon pour lancer le mouvement athée des Quarts Mondes dans le sud de la France. J'ai redécouvert la cité de transit du Fort Rouge, une cité de transit où j'avais été animateur d'un club de foot et d'une bibliothèque de rue quand j'étais collégien. J'étais très fier, mais le premier jour où j'arrivais dans cette cité de transit, que je retrouvais en fait, on m'a appelé en urgence parce qu'un homme venait faire une tentative de suicide pour des raisons presque légitimes, puisqu'il venait découvrir dans la même semaine que sa femme le trompait avec un voisin, que sa fille se retrouvait enceinte aussi d'un inconnu. Il était toujours au chômage, menace d'expulsion, enfin ça faisait trop, c'était trop. Il s'était coupé à l'avant-bras, on m'a appelé pour le garrotter le temps que le SAMU arrive. J'étais tout nouveau, je débarquais depuis quelques heures, et cet homme qui était costaud, à chaque fois qu'il se ranimait en attendant les pompiers, me disait « Mais qui es-tu pour m'empêcher de mourir ?» J'arrivais tout juste dans cette idée. Et ça a été quelque chose d'assez foudroyant intérieurement, parce que cette question me taraudait en comprenant sa situation. Et pourtant, il y avait en moi le désir de l'aider à vivre. Toutes mes questions de militant du Quart Monde sur les droits de l'homme, sur la mobilisation des amis du quartier, qui restent intactes, mais étaient totalement désarçonnées par cette question. Et j'ai mis cette question dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus. Ça m'a traîné pendant quelques années. Et quand j'ai été confronté à une nouvelle épreuve de la mort, un premier militant Quart Monde qui avait été formé à Toulon, qui était un peu la fierté du père Joseph, s'est fait lui-même assassiner dans le quartier, par un ancien légionnaire qui était gardien d'immeuble, qui était dépressif et qui était jaloux de le voir prendre la parole, se réorganiser alors qu'il était lettré comme lui. Quand je suis allé reconnaître son corps avec son épouse Annie à la morgue, ce jour-là, Annie m'avait arraché sa croix qu'elle avait autour du cou, me l'avait jetée. C'est pas que j'étais un ancien séminariste, en me disant « Mais pourquoi, s'il est arrivé ça, c'est à cause de toutes vos histoires, de ces engagements ?» Et j'ai réalisé tout d'un coup que des hommes pouvaient mourir de leur engagement, et moi finalement, au milieu, là, j'étais pas si compromis que ça dans la même histoire qu'eux. Et c'est là où, ce moment-là, qui a été un peu décidé intérieurement, que les choses se sont mises en cohérence d'un choix de vie consacré au service du Seigneur et des pauvres, sans trop savoir où ça allait. Et quand Annie, l'épouse de Daniel qui venait d'être assassinée, m'a dit « On l'enterrera pas à l'église parce que... » J'ai dit « Pourquoi ?» Elle me dit « On s'est pas mariés. Pourquoi vous n'êtes pas mariés ?» Elle me dit « À l'époque, on était allé voir le curé, on était dans le bidonville à Versailles. Et quand on a vu les questions qu'il nous avait posées, on était trop accusateurs. » Et elle m'a dit « On a trempé nos alliances dans le bénitier. On est parti. » Moi, j'étais à Tédé Carmont. J'ai dit « Mais non, il va être enterré à l'église et ce sera l'évêque qui viendra. » Et puis c'est Monseigneur Barthes, lui qui m'a ordonné quelques années après, qui est venu enterrer Daniel. Et il a été très touché. Et après les obsèques, m'a demandé de venir le voir. Et c'est comme ça qu'a commencé beaucoup l'aventure. Alors cette question « Qui es-tu pour m'empêcher de mourir ?» elle me revient tout le temps. À chaque fois que je suis confronté à des situations extrêmes, c'était ça après la rencontre avec les sans-domicile, actuellement avec tous les réfugiés, les déboutés de droit d'asile. Et puis c'est une question aussi pour moi, quand je suis, non pas découragé, mais un peu abattu, j'ai même plus le courage de dire l'office du soir, ben je prends un chapelet et à la place de dire des Ave Maria, je dis « Qui es-tu pour m'empêcher de mourir ?» Ça devient ma prière au Seigneur. Voilà.
C'est votre prière, c'est aussi le titre d'un livre que vous avez écrit avec une série de témoignages dans ce livre. Et puis vient de sortir un deuxième livre, Sur les chemins du serviteur. Entre les deux, il y a ce mot de service. Est-ce que ce mot de service, c'est le fil rouge de tout votre parcours, Gilles Rebêche?
Oui, c'est un élément qui m'aide à relire ma vie, à voir comment le Seigneur est venu aussi me rejoindre. Je suis toujours impressionné dans l'évangile selon saint Luc que Jésus ne dit qu'une fois « je suis », comme l'éternel au buisson ardent. « Je suis celui qui suis, je suis celui qui serai ». Il dit « je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Donc le service qui n'est pas simplement un acte moral, une BA, mais qui est un savoir-être. C'est comme le buisson ardent, c'est le lieu où se révèle une relation juste au Seigneur.
Gilles Rebêche, il y a la diaconie dans le Var. Vous êtes maintenant ce coordinateur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces dernières années? Qu'est-ce que vous avez fait dans le Var? Et quel est l'esprit de la diaconie?
C'est ce service communautaire organisé de la charité, qui n'est pas simplement de l'ordre du faire, c'est surtout une question d'ambiance. Je raconte dans mon premier ouvrage comment la diaconie est née dans le Var, avec la personnalité de Monseigneur Barthes, l'évêque qui m'a ordonné, avec cet épisode de la fin de sa vie qui restait aussi un moment de lumière. Pour moi, il était malade, il s'était cassé la clavicule à cause d'un accident sur la route, il était âgé, il allait prendre sa retraite, il n'osait pas lancer la diaconie. Et puis c'est un événement étonnant, le fait de s'être cassé la clavicule, il n'arrivait plus à aller aux toilettes tout seul. Et quand j'étais allé le voir dans sa chambre, il était sombre et en fait c'était pas que la clavicule, c'était une sorte de crise spirituelle. Et il m'avait dit, vois-tu, j'ai honte, je demande pardon à Dieu, j'ai passé ma vie, en particulier à Lourdes, à mettre des médailles à tous les hospitaliers qui s'occupaient des malades. Et il dit, je me suis rendu compte que je suis passé à côté, il fallait que je remette des médailles à tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux. Et il m'a dit, tu vois, la diaconie, ça ne sera pas la liste des œuvres dans un diocèse, ça sera que tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux ne se sentent pas désobligés et se sentent à l'aise en famille chez nous. Donc l'esprit de la diaconie, c'est d'abord un état d'esprit, une manière de considérer l'autre pas comme un objet de la charité, mais comme un frère dans la foi, ou dans la recherche en tout cas. C'est ça, donc en même temps, la diaconie ne peut pas être que des discours et elle a besoin de se confronter à des choses concrètes. C'est pour ça qu'on a été amené au fil des années à ouvrir des accueils de jour pour les sans-abri, des foyers d'hébergement, des centres d'alphabétisation, des centres de soins. Aujourd'hui, dans le Var, le diocèse a plus d'une trentaine de maisons sur l'ensemble du département, avec une prise en compte de ce que l'on appelle la pastorale sociale, qui n'existe pas toujours dans les diocèses de France. On délègue toujours. Donc la diaconie, c'est ça, c'est faire communauté et autour de l'esprit de service et de la charité.
Et justement, vous dites que dans l'esprit de la diaconie, il y a trois types de soins qui sont nécessaires. Un soin technique, un soin relationnel et un soin spirituel. Expliquez-nous ces trois sortes de soins.
C'est vrai que c'est en méditant et en présentant un groupe de travailleurs sociaux qui m'a demandé de donner un avis en tant qu'homme d'église et militant associatif sur le schéma d'insertion pour le département du Var que j'ai affiné ce triple soin. Je devais être accompagné par Ludovic, mon assistant, directeur qui avait fait une leucémie foudroyante. Il s'en est sorti et j'étais allé le voir dans l'avant-veille de cette conférence. Et j'ai trouvé, il était sous sa cabane en plastique, là. C'était une grosse épreuve. Hein. Et le voyant quand même assez rayonnant, malgré toute cette épreuve, et il s'en est sorti en parlant avec lui. J'ai réalisé qu'il s'en était sorti grâce à ses trois soins. Et c'est ce que j'ai expliqué à tous les travailleurs sociaux, les services du budget du conseil départemental du Var, en disant, voilà, on a besoin de soins techniques. Lui-même me disait, heureusement qu'il y a eu l'hélicoptère, qu'il y a eu les médecins, qu'il y a eu la performance des soignants. Mais ce qui l'a aidé aussi, c'est les soins relationnels, outre le fait que sa femme, ses petites filles qui lui écrivaient, qui avaient envoyé des cartes, des dessins, et tous les amis qui ont fait signe, ils se sentaient portés au boulot. Les gens lui ont dit « t'affole pas, on garde ta place, on va dépanner ». Et puis, il était croyant et il était à Paoli Calmette, un hôpital de Marseille, et de sa fenêtre, il voyait la bonne mère. C'est un peu tout ça. Et donc, je disais aux travailleurs sociaux, je leur disais, voilà, quand on fait de l'insertion par le logement ou l'hébergement, pour des personnes à la rue en grande précarité, si vous faites que du soin technique, eh bien, c'est de la mise à l'abri ou c'est l'assignation à résidence, et les gens se sentent dans un huis clos. Habiter, c'est pas simplement avoir un toit sur la tête. Habiter, c'est habiter son histoire, c'est habiter ses relations, c'est habiter un projet. Il faut un soin relationnel. Il faut se dire, bon, le jour où ils y vont, comment on va prendre la crémaillère, qui on va inviter. Si on a une maison, c'est qu'on a, on a aussi une raison de s'en sortir pour aller au boulot. Il faut penser le relationnel autour du logement. Et le spirituel, c'est pas que le religieux. Si la personne est religieuse, eh bien, il faut l'aider à avoir une image religieuse dans sa maison, mais c'est aussi la déco. Si vous mettez une personne ou une famille qui est à la rue, simplement dans un appart avec une table, une chaise, c'est autant important les lampadaires, les cadres, la déco. Et je veux dire, en tant que travailleurs sociaux, si vous ne travaillez pas sur des robots, vous travaillez sur des êtres humains. Donc n'oubliez pas, dès que vous parlez par exemple d'insertion par le logement et l'hébergement, c'est tenir ensemble le soin technique, le soin relationnel, le soin spirituel. Depuis, je pense que c'est une bonne conception enfin, de l'anthropologie chrétienne, de la doctrine sociale. Donc la diaconie essaie dans le champ de la pastorale sociale de tenir cette triple fonction. Et souvent, je le dis même à tous les professionnels je dis pour un chrétien, ce qui s'oppose à l'exclusion, ce n'est pas l'inclusion ou l'insertion, c'est la communion. Une parole du psaume qui me plaît beaucoup, c'est « Que les pauvres m'entendent et soient en fête ».
Merci Gilles Robèche.
Merci à vous.